Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
On va lire au verset premier, ce chapitre 9 du deuxième livre de Samuel. David dit, et David c'est le roi d'Israël, c'est celui, tout le monde le sait, qui a vaincu ce géant Goliath. Et David, qui est roi d'Israël, dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fait venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Je le suis, moi ton serviteur. » Le roi lui dit, « N'y a-t-il personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Mais où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher. Et, verset 6, Méphibosheth, c'est son nom, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je veux user de bienveillance envers toi, à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils, tes serviteurs, tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger. Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera en permanence à ma table. Tsiba avait 15 fils, 20 serviteurs. Et Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. David avait dit, Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem et il mangeait en permanence à la table du roi. Il était perclus des pieds. Voilà une drôle d'histoire, n'est-ce pas? Voilà une drôle d'histoire qui mérite que nous nous y attardons. J'ai été, comme vous certainement, tout à nouveau saisi par l'actualité. Saisi parce que nous avons vu il y a quelques semaines ces images effroyables du tsunami qui est passé. Mais nous sommes replongés dans une nouvelle activité qui nous ramène quelques 60 ans en arrière. On est en train de parler de la catastrophe, de la Shoah, de ce qui s'est passé dans cette Seconde Guerre mondiale. Et il y a quelque chose qui vient frapper puissamment l'actualité, c'est la honte qui s'attache à un tel désastre. C'est une honte qui marque des nations, c'est une honte qui pèse, et malgré tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on sent que les gens, rappelant ces douloureux, ces terribles souvenirs inimaginables, il y a comme une honte qui pèse sur eux. Vous voyez, ce texte de la parole de Dieu nous plonge carrément dans la honte. Et mon message ce soir, il est simple, il est peut-être uniquement pour toi. Comment puis-je être délivré d'une vie qui a été marquée par la honte? Et nous avons besoin de délivrance. Et qui pourra nous permettre de vivre une autre vie marquée par la gloire, marquée par quelque chose qui glorifie, qui honore. Il y a des noms aujourd'hui, nous voudrions les oublier, tant la honte s'attache à leur vie. Il y a peut-être un membre de votre famille, vous ne voulez même pas saluer, tellement il a une vie marquée de honte. Peut-être vous avez honte ce soir d'un de vos fils, l'une de vos filles. Peut-être vous avez honte de votre mari. Peut-être vous avez honte de vous-même. Et nous avons besoin, à travers de circonstances, d'être délivrés de la honte. Pourquoi ? Mephibosheth veut dire son nom, veut dire mon prénom à moi veut rien dire du tout. Il y en a qui ont des prénoms qui veulent dire des belles choses, on leur offre des belles cartes. Et c'est toujours formidable, n'est-ce pas ? C'est la carte. Mais Mephibosheth, son nom, ça veut dire délivré de la honte. Et en réalité, ce garçon porte un nom, mais sa vie ne correspond pas du tout à son nom. Parce que la honte s'est attachée à lui. Et il a fallu cette intervention du roi David pour enlever la honte qui était de dessus lui. Et comme dit la parole de Dieu, David avait la seule intention, en rappelant et en cherchant si dans la famille de Saül, cet ancien roi d'Israël, il y avait encore un membre de cette famille, non pas pour rappeler la honte qui s'attacha à cette famille, mais pour enlever la honte d'une vie. Et ce soir, il y a plus que David au milieu de nous. Ce soir, il y a plus que des frères et des sœurs en Christ. Il y a plus que des gens qui vous aiment. Il y a ici ce soir la personne extraordinaire de Jésus qui est capable de transformer votre honte en gloire. Qui est capable de transformer votre vie et de vous amener dans une vie dont vous ne serez jamais de regret au plus profond de vous-même. Ici, la Bible nous parle et nous projette dans ce personnage de Mephibosheth. Savez-vous que cet homme, en quelques secondes, il a tout perdu. Le tsunami qui est passé, tous les projets, tout l'avenir de famille, en quelques secondes, est parti, mes amis, en l'a emmené par des flots et des flots d'eau bouillonnante. Et nous avons vu ces images terribles d'hommes, de femmes, d'enfants, complètement désemparé. Tout s'était écroulé. Tous les rêves, tous ceux qui, pardonnez-moi, mais de l'Occident qui étaient dans ces nations pour se faire de l'argent, pour se bâtir des rêves, pour donner du rêve aux gens. En quelques secondes, tout a été balayé. Et vous voyez ici dans ce texte, il y a une femme qui a donné naissance à un petit garçon qu'on a appelé Mephibosheth. Et ce petit garçon, il est confié à une nourrice. Elle est peut-être en train de lui chanter une berceuse quand on apprend que des coureurs sont en train d'arriver pour annoncer les nouvelles du champ de bataille. Et quand cette femme, avec ce petit Mephibosheth dans ses bras, se présente peut-être au balcon du palais royal, et que les coureurs arrivent pour annoncer ce qui se passe sur le champ de bataille, ils annoncent que le roi Saül est mort, et que son fils Jonathan, le papa de Mephibosheth, est mort. Le même jour, ce garçon est devenu orphelin. Il a perdu son père, il a perdu son grand-père. Le même jour, ce garçon est privé d'un avenir extraordinaire, d'un avenir royal. Le même jour, mes amis, il est là, il est en bonne santé, il est en pleine forme, il a fait la joie de tout le monde, et là, quand la nouvelle atteint cette femme, cette nourrice, elle est tellement saisie qu'elle en perd le bébé. Il tombe par terre et il va être perclu des pieds. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup pour quelques secondes de vie, devenir orphelin, perdre son père, perdre sa mère, devenir d'un seul coup infirme. Et voilà l'histoire de ce garçon. Et ce jour-là, quelque chose encore de plus terrible va lui arriver, c'est qu'il est condamné à vivre reclus. C'est qu'il est condamné à vivre dans le rejet. Et quand le roi David est en train de dire, mais reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Parce que vous savez comment que c'est dans l'histoire et l'histoire de France. On aimait bien quand un roi prenait la place d'un autre de liquider toute la lignée. Fallait pas qu'il y ait de risque pour la couronne, pour le trône. Et là, dans la maison de Saül, on s'était arrangé pour que tous puissent y passer, personne ne revendique le trône. Mais Méphibosheth avait été mis en cachette, quelque part. Et quand on apprend, quand il apprend par Siba, que le roi le fait demander, il se dit, ça y est, c'est fini. Je suis cuit, c'est terminé pour moi. Le glas sonne pour ma vie. Mais en réalité, ce n'était pas ça du tout. David avait un désir bien à Méphibosheth en souvenir d'une amitié que David avait eue avec son papa Jonathan. Et mes amis, toute une histoire va commencer. Et quand Méphibosheth se trouve devant le roi David, vous avez vu l'expression qu'il a. Et c'est peut-être l'expression de votre vie. C'est peut-être ce que vous avez mené comme vie jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous dit que ceci, Méphibosheth, se prosterna et il dira à David, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort ?» Ma mère disait à ses enfants, « Nous menons une vie de chien. » Et parfois, disait-elle, « Même un chien a une meilleure vie que nous. » Les gens ont cette expression. Encore aujourd'hui, on mène une vie de chien. Et ça peut résumer votre vie. Ça peut résumer votre passé, votre existence. Bien même, vous avez quelques biens matériels, peut-être qu'au fond de votre âme, dans votre cœur, dans votre foyer, rien ne va. Vous ne faites que cacher votre honte. Je me souviens de ma mère, lorsqu'elle était frappée par son époux, et qu'elle allait au travail, sa patronne lui disait, « Madame Bergamini, mais qu'est-ce qu'il vous est arrivé ?» Elle était tuméfiée sur la figure, et elle disait, « Je suis tombée dans les poubelles ce matin. » Vous n'avez pas envie de raconter que votre mari est un soulard, puis qu'il vous tape tous les jours. Vous n'avez pas envie de raconter de choses semblables aux autres, bien que, vous savez, les autres savaient certainement plus que nous l'imaginions. Mais c'était une vie de chien. Ma vie de jeune homme, dans la drogue, dans l'iniquité, dans la fornication, c'était une vie de chien. Et je peux vous le dire, je n'ai rongé que les os. Mais je n'ai jamais trouvé de quoi satisfaire ma vie. Méphibosheth parle d'une vie gâchée. Il parle d'une vie morte. Il parle d'une vie qui n'a jamais été la vie. Et combien d'hommes, de femmes ont été frappés par l'injustice, ont été victimes du péché des autres, ont eu un accident dans la vie et sont enfermés comme Méphibosheth dans l'amertume de l'existence. Mais il y a quelqu'un qui voudrait vous faire du bien. Il y a plus que le roi David, il y a plus que des choses matérielles. Il y a un Dieu dans le ciel qui n'a cessé de vous regarder, de vous chercher. Et peut-être ce soir, il a réussi enfin à vous atteindre parce que vous avez accepté de pouvoir répondre à un appel, à une sollicitation. Parce que vous savez, Dieu ne nous viole pas. Dieu vient jusqu'à nous. D'une manière, d'une autre, il essaye de nous atteindre. Il essaye de nous parler. David Méphibosheth, chaque pas qu'il faisait, lui rappelait sa honte. Mais le pire de tout pour lui, c'était que son grand-père, le roi Saül, était devenu un traître. Il avait trahi le Dieu d'Israël. Il avait trahi ses engagements quant à la royauté, de vivre sous la loi de Dieu et de conduire le peuple dans la droiture, l'équité. Le roi Saül avait péché. Et il avait fini par désobéir à Dieu. Il était devenu un roi rétrograde. Il retournait à d'anciens péchés. Et mes amis, il a fini par aller consulter une sorcière. pour quelqu'un qui avait reçu l'onction de Dieu, pour quelqu'un qui avait été visité par le Saint-Esprit, par quelqu'un qui avait été saisi par l'Esprit de Dieu et amené à cette tâche, à cet appel, où il en était tombé, il était devenu traître, rétrograde. Eh bien, c'est dur à porter pour un enfant, comme Méphibosheth, de savoir que son père, son grand-père, pardon, était un traître. Me souviendrai toujours, lorsque le lundi matin, je prenais, comme tous les enfants, le cartable pour aller à l'école, et que je rencontrais dans le long du chemin deux, trois copains de quartier qui allaient dans la même école que moi. Souvent, je les ai vus se donner des coups de coude. Et j'entendais, tiens, là le fils de l'alcoolo. Puis quelques-uns me disaient, ton père, il en tenait une bonne samedi, hein. On l'a entendu brailler dans le quartier, hein. On l'a entendu. Ben vous êtes un petit garçon, puis vous essayez d'avaler votre salive, et puis vous rêvez que d'une seule chose, c'est d'avoir un autre papa. Vous rêvez que d'une seule chose, c'est de plus porter le nom que vous portez. Parce qu'à ce nom-là s'attache une honte. Peut-être il y a quelqu'un ici, le fils d'un buveur, il y a peut-être la fille d'un buveur, et ça a tellement marqué votre vie qu'il y a un fardeau sur votre existence. Et vous avez peut-être eu déjà envie de mourir, de fuir, et vous ne manquez jamais dans l'histoire de famille, dans l'histoire du quartier, que des braves gens vous rappellent qui vous êtes. Peut-être il y a quelqu'un ce soir qui porte la honte d'être né d'une femme prostituée. Mon ami René a été conçu sur le port de Dunkerque. Sa maman était prostituée. Elle a une relation avec un marin de passage. Et René est né. Puis jusqu'à l'âge de 21 ans, René, il était un garçon plein de haine. Il a aussi connu l'enfer de la drogue. Il a connu des plaisirs. Jusqu'au jour où il a lu un texte de la Bible qu'un ami lui a donné en lui rendant témoignage qu'il avait du prix aux yeux de Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il a pu connaître Jésus-Christ, et sa honte s'en allait. Et il est devenu un de nos prédicateurs aujourd'hui, René Delattre, qui prêche l'amour de Dieu. Vous pouvez peut-être être né sous X, me souviendrai toujours de cette émission de télévision, où peut-être on donnait un espoir à des hommes, des femmes qui étaient nés sous X, de savoir enfin, et cet homme qui avait passé 60 ans, qui disait peut-être avec des larmes dans les yeux, je vais savoir qui était ma mère. Parce que quand je suis dans la rue, toutes les femmes que je croise d'un certain âge, je me dis, c'est peut-être ma mère. Porter une honte sur sa vie, comme une tâche. Peut-être votre père a été en prison. Peut-être que vous êtes né d'un viol. Peut-être vous êtes un enfant de la DAS. Peut-être vous êtes le fruit d'un inceste ou d'un adultère. Si vous avez écouté cette actualité de ces jours passés, hier en particulier, le journaliste demandait à cette femme qui est sortie d'Auschwitz, lui a dit, c'est quand vous en avez parlé? Elle dit, j'avais tellement honte, c'est seulement maintenant que je commence à en parler. Voyez, la honte peut s'attacher à une vie, et nous avons besoin, pour vivre, d'en être libérés. Nous avons besoin d'affranchissement. On parle de maladies honteuses. Des gens qui sont aujourd'hui touchés par le sida ou d'autres maladies. Je me souviendrai toujours de notre amie Joël. La première fois qu'elle est venue à l'église, elle avait une maladie honteuse. Elle voulait pas parler de ce qu'elle avait. Et le soir où elle est venue à la réunion et qu'elle a entendu le message de Jésus-Christ, son cœur a commencé à battre d'espérance. Et elle a dit, ça si c'est vrai, alors c'est le plus grand message qui existe au monde. Elle s'est approchée à la prière, alors que le pasteur imposait les mains à ceux qui étaient malades. Elle a été guérie. Et quelques années plus tard, Joël est parti sur le champ missionnaire du Niger, au milieu du peuple Touareg, annoncer Jésus-Christ, qui sauve, qui guérit. Dieu avait enlevé sa honte pour lui donner une onction extraordinaire. La Bible dit que le péché, c'est la honte des peuples. L'homme disait, la honte s'est attachée à moi. Et peut-être que vous êtes là, dans cette situation, et puis que rien ne marche pour vous. Vous êtes boiteux, semblable à Méphibosheth. Vous savez, la Bible nous parle d'un événement qui a été tragique, aux conséquences tragiques, aux conséquences éternelles, que rien ne pourra réparer sinon Jésus-Christ. C'est la tragédie du jardin d'Éden. C'est la chute d'un homme. Il a chuté des bras de Dieu, et non pas que Dieu l'ait laissé tomber, mais que cet homme a sauté des bras de Dieu pour s'enfuir et vivre sa vie. Je n'ai plus besoin de Dieu. Il avait choisi l'autonomie, l'indépendance. Il avait choisi de vivre sans Dieu. Il croyait à un mirage. Il avait entendu une voix lui dire, mais si là tu fais ceci, si tu fais cela, tu vas être comme Dieu. Sois Dieu, t'occupe pas de Dieu, t'es Dieu toi-même. Et cet homme, écoutant la voix du menteur, a fait une chute terrible. Il est passé du ciel en enfer en quelques instants. Les ténèbres sont venues l'habiter. Le péché a commencé à remplir son cœur. Et quelque temps plus tard, Abel sera tué par son frère, non pas par un ennemi, mais par son propre frère Caïn de la jalousie. Et c'est ainsi, mes amis, que l'homme est chuté, que l'homme est perclus des pieds. Vous vous demandez pourquoi le monde ne va pas bien, pourquoi il ne marche pas, parce qu'il est marqué du péché, il est marqué de la chute. Et votre vie, ce n'est pas à Jésus-Christ, elle est marquée de la chute, et rien ne pourra réellement faire en sorte que votre vie soit une vie harmonieuse, une vie bénie, parce que le péché habite au-dedans de vous. Comme le péché habitait au-dedans de moi. Mais la parole de Dieu nous dit que ce boiteux, que cet homme qui était couvert de honte, il y avait quelqu'un qui voulait lui faire du bien. Et ce soir, il y a quelqu'un qui vous cherche. Comme on a cherché Méphibosheth, il y a quelqu'un qui vous cherche. Et celui qui vous cherche n'est pas l'ami qui vous a proposé cette réunion. Ce n'est pas cette église qui vous accueille, celui qui vous cherche, est bien plus grand que tout cela. Son nom est Jésus. Il est venu pour vous dans le monde. Il s'est chargé de votre honte à la croix du calvaire. Quand on regardait le crucifié, on détournait son visage, tant il était honteux de le regarder. Il n'avait plus l'aspect d'un homme. Mais qu'est-ce qui a fait que le Fils de Dieu soit aussi horrible que cela à voir? C'est notre péché. C'est notre péché. Et la Bible nous dit qu'il était en train de porter la honte de nos iniquités sur le bois du calvaire, afin de nous donner pardon, de nous donner la vie, de nous donner la gloire dont nous étions privés, la gloire de Dieu. Quelqu'un vous cherche pour vous faire du bien. La Bible décrit le ministère de Jésus en quelques lignes. L'évangéliste Luc écrit, parlant de Jésus, « Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Amen. Jésus veut bénir votre vie. Jésus veut vous faire du bien, comme jamais quelqu'un vous aura fait du bien. Il y a quelqu'un qui veut vous rendre votre dignité. Vous avez vu pour Méphibosheth, la parole de Dieu nous dit que le roi David lui dit, tu vas devenir comme mon fils. Tu vas venir manger à la table royale. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas devenir l'enfant de la maison. Et je vais prendre soin jusqu'à la fin de ta vie. Voulez-vous devenir enfant de Dieu? Voulez-vous devenir enfant du roi des rois? Voulez-vous devenir celui qui va être béni jusqu'au restant de votre vie? Et quand vous quitterez cette terre, vous rentrerez dans la réelle bénédiction que Dieu a préparée de toute éternité pour vous. Voulez-vous accepter d'être adopté par le Fils de Dieu et d'être sauvé ce soir? Et que cette vie de honte qui s'est attaché à vous, qui vous a ruiné jusqu'à aujourd'hui, et que le diable a exploité, que vous en soyez délivré. Oui, quelqu'un veut effacer votre honte, vous pardonner vos péchés, vous rétablir dans la communion éternelle. Ou est-ce qu'il faudra que la honte continue de s'attacher à votre vie et quand vous basculerez dans l'éternité, vous ayez là, dans le lieu le plus honteux qui soit, le lieu où tous les péchés sont réunis, que la Bible appelle l'enfer. Dieu vous donne un avenir en son Fils Jésus-Christ. Savez-vous ce que j'ai lu dans la Bible alors que j'étais un tout jeune chrétien de quelques heures, tout frais? J'ai lu dans la Bible ces paroles en parlant de Jésus-Christ. Il n'a pas eu honte de les appeler ses frères. Tout le monde avait honte de moi. J'avais honte de moi. Croyez-vous, quand on a 17 ans, qu'on s'enfuit de la maison et qu'on a le sang de son père sous les mains, qu'on ne peut pas avoir honte de soi? Croyez-vous, mes amis, après des nuits d'iniquité, de péché, de souillure, vous n'avez pas honte de vous? Croyez-vous que je n'avais pas honte de moi quand je vendais de la drogue à des gosses de 12-13 ans à la sortie du collège? Mais qui pouvait enlever ce fardeau? J'ai lu dans la Bible. Il n'a pas eu honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de toi. Il t'aime. Ta vie ne l'écœure pas. Si t'as pu écœurer les autres, si t'as pu t'écœurer toi-même, Jésus t'aime. Et son sang précieux voudrait couler sur ton âme, voudrait laver et enlever ta honte de ton existence. Et faire de toi un enfant de Dieu. Tout le cours de l'histoire de Méphibosheth a changé. La fin de sa vie fut meilleure que toute sa jeunesse. Il était à la table du roi jusqu'à la fin. Dieu te propose le salut. Pas une religion, mais le salut de ton âme. Il te propose le salut. Enlever la honte de ta vie et tout ce qui s'y attache. Que Dieu soit béni. Il y a peut-être ce soir un frère, une sœur également, qui le long du parcours s'est mis à boiter. La Bible nous parle d'une course. La vie, c'est une course. C'est une longue course. La Bible appelle l'agone. Ce qu'on a dit marathon. L'agone qu'a donné ce mot agonie. Et c'est vrai que la vie, c'est parfois une longue agonie. Il n'y a rien de facile. Et parfois, même en tant que croyant, il y a des choses qui arrivent dans notre existence et qui sont là comme pour nous renverser, nous bousculer, nous jeter à bas. Il y a des agressions qui peuvent venir de la part de l'ennemi de nos âmes. Et la Bible nous parle d'hommes, de femmes qui s'étaient mis à boiter, dont les genoux s'étaient mis à se disloquer, dont les pieds commençaient à dévier des voies de Dieu. Il y avait cet appel du prophète. Je guérirai la boiteuse. Je guérirai la boiteuse. Dieu sait quel fardeau peut peser sur ta vie. Vous savez, quand on porte de lourds fardeaux sur les épaules, au bout d'un certain moment, on marche plus droit. On peut plus, tellement ça nous écrase. Et peut-être ce soir, il y a un fardeau qui écrase ta vie. Et tu t'es mis à boiter spirituellement. Et je voudrais dire ce soir, Jésus est là pour te faire du bien. Parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus est toujours le même. Parce qu'il veut que tu poursuives la course. Parce qu'il veut t'emmener jusqu'à franchir la ligne. Parce qu'il veut que tu puisses être couronné. Peut-être tu as péché. Peut-être tu as fait quelque chose d'honteux. Comme cette femme qui, dans un moment de crise terrible, vivant dans un foyer déséquilibré, apprenant qu'elle est enceinte, ira se faire avorter. Et de sentir quelque temps plus tard toute la honte d'avoir fait ce qu'elle avait fait. Elle disait, mais comment puis-je revenir au Seigneur? Je bénis celui qui a pris tous nos péchés sur la croix. Ceux d'hier et d'aujourd'hui, et qu'il est le même pour nous relever, pour nous faire du bien, parce qu'il nous aime. Voilà le message que nous avons ce soir à travers la parole de Dieu, être délivré de la honte qui s'attache à nos vies pour passer dans la gloire de Dieu.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.